Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Sean O'Neill, brasseur dans l'URL La Tuilière. Depuis 2009, devenu brasseur à temps plein.
Moi, j'ai l'envie d'une bonne bière. Je trouvais pas quelque chose qui plaît. Je veux faire moi-même. Avec l'orge que j'ai produit sur la ferme, on a essayé à malter, j'ai fait une bière et c'était un échec monumental, mais c'était imbuvable. Et je peux pas rester sur un échec. Et avec les années, un peu les recherches et tout, on a amélioré la façon de faire la bière, le processus, jusqu'à arriver aujourd'hui où c'est pas la bière parfaite, mais c'est une bière qui plaît à moi et à plusieurs personnes. J'ai fait plusieurs formations à la AFBM, c'est l'Institut français de boissons et malteries. C'était une vraie formation professionnelle. Après, c'est dans la brasserie. J'ai passé pas mal de temps dans la petite brasserie anglaise. Les brasseries en Californie et aussi en France, dans les brasseries françaises. Et dans une autre vie, j'ai fait les études en chimie et biochimie pour faire le vrai développement. C'est un peu mon métier à l'époque. Vraiment, le savoir-faire, c'est la première chose. On a beaucoup de brasseurs qui sont commencés dans la cuisine. On fait les essais, et, déjà premier savoir-faire. Après, la matière première. L'eau, c'est très important. La bière, ça se fait plutôt avec les céréales maltais. Ces matières premières, c'est pas toujours facile de trouver les bonnes qualités. Et moi, tout au début, j'ai fait un choix à faire une bière bio. Je trouve que pour moi, c'est important, mais aussi pour les générations, l'avenir, avec un respect pour l'environnement et les gens autour, les gens qui travaillent dedans, les gens qui ont grandi dans cet environnement. Au niveau équipement, c'est pareil, c'est un produit alimentaire, il faut aller à hauteur, tout est propre. C'est un produit qui sont très sensible à la contamination microbienne. Il faut vraiment faire quelque chose qui sont stériles, qui sont propres à la consommation. On travaille souvent avec les choses en inox. C'est passé par une étude de marché. Bon, après, ça fait un peu peur, les investissements qui sont à faire, une trésorerie pour faire un bel stock pour passer l'été. Comment on voit les chiffres, ça commence à refroidir beaucoup. Un bâtiment, si on peut trouver un bâtiment loué, c'est fabuleux, mais à l'époque, c'était encore le grand boom. J'étais obligé à construire moi-même un bâtiment. Un bâtiment, c'est 60, voire 80 000 euros. On ajoute l'équipement en inox, c'est au moins 15, 20, 25 000 euros de l'équipement en inox. La matière première, ça a évolué très très vite et j'ai rendu compte que j'ai besoin d'un petit coup de main là. Et j'ai passé à voir les communautés communes essayant. Et ça m'a dit, tiens, on a peut-être un bon plan qui peut aider là, c'est Sophie Fauquin, l'IVDD, Oust. Et c'est vraiment avec cette association où le business plan, l'étude de marché, ça a évolué. On a passé un bon 6 mois à faire beaucoup de chiffres et à la fin de ça, j'avais la chance de présenter ma projet et c'était accepté en commission.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Biotop. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotop.
Un programme soutenu par BioValley.
Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel opus du magazine Biotop, la Biovallée en pratique, diffusée simultanément à 18h sur RDIWA et Radio Saint-Ferréol, le jeudi, rediffusée le samedi à 12h10 et en différé sur Radio Méga. Une émission qui vous invite à découvrir les bonnes initiatives du territoire de la vallée de la Drôme. Des visites organisées par l'association Pronature de Cray et commentées par Arnaud Boistel, technicien en assainissement non collectif et installateur en phytoépuration, sont destinées aux prescripteurs, aux services administratifs, SPANC, communes, architectes, bureaux d'études, artisans et aux particuliers ayant un projet d'assainissement individuel. La station communale de Cobonne, un système pouvant être proposé aux petites collectivités et aux agriculteurs dans le cadre de l'assainissement non collectif. Nous retrouvons Arnaud qui nous explique toute l'installation en place.
Là, cette station communale, elle a été, on peut le lire sur le panneau d'entrée, elle a été construite par Épure Nature, qui se trouve dans le Vaucluse. Le bureau d'études à l'initiative de ce type d'installation s'appelle SINT. Et SINT a été créé par Dirk Esser. Dirk Esser est un de ces chercheurs qui a assuré la promotion de la phytoépuration destinée aux communes en France, en lien avec le CEMAGREF, qui est devenu maintenant l'IRSTEA. Ensuite, ce système, petit à petit, s'est élargi à l'assainissement non collectif, donc à l'assainissement destiné aux particuliers. Le fait d'être agréé permet donc d'installer ce système chez le particulier en toute légalité. Et il ne peut y avoir donc de réserve émise par les SPANC. Là, c'est le dégrillage. Pour éviter d'obturer les canalisations, les paquets les plus gros arrivent là. L'employé communal prend un râteau et le met dans le bac là et ça décante. Là, ce n'est pas un système épuratoire, on appelle ça du dégrillage. Ensuite, toutes les eaux arrivent dans ce bassin qu'on appelle une chasse à OG. Il s'agit d'étaler l'ensemble de l'effluent sur le filtre. De façon importante, il faut amener une lame d'eau d'à peu près 3 à 5 cm. Et donc, on attend que... C'est comme une chasse d'eau, hein. On attend que le bassin se remplisse. Et ensuite, il y a un système de siphon qui fait que ça se vide d'un seul coup. Et que donc, on a une lame d'eau qui arrive sur le premier filtre. Et on est certain comme ça que l'ensemble du filtre est ennoyé et que tout le filtre, toute la surface du filtre reçoit de l'eau. Et que donc, tous les roseaux sont alimentés. Et qu'il n'y a pas de d'écoulement préférentiel à un endroit du filtre.
Bonjour Mme Gassoin.
Ça va ?
Oui, vous ?
Vous avez des questions à poser sur le fonctionnement ou sur... Enfin, moi je suis l'ancien maire, mais c'est moi qui ai mis en place, mais effectivement, moi j'avais connu ce système il y a très longtemps, il y a, je sais pas, il y a 15 ans, 20 ans, dans l'Écosse, dans le Lot. Et ça m'a intéressé. C'était une commune à peu près un peu plus importante que Cobonne, mais aussi avec en système karstique, enfin c'était un peu équivalent comme couche géologique. Et je me suis dit, plutôt que, quand il a fallu faire une station, je me suis dit, plutôt que de construire quelque chose où il va falloir mettre de l'énergie, enfin de l'énergie électrique s'entend, mettre des installations techniques de brassage, etc., qui sont souvent compliquées à mettre en œuvre et compliquées à entretenir, ce système, c'est l'idéal, puisque pas d'odeur, pas d'eau, pas de moustiques, et surtout, pas d'énergie. Donc, voilà, c'était vraiment ce qui convenait à Cobonne. Il a fallu convaincre l'administration, la DDA à l'époque, ce qui n'a pas été facile, parce que ça ne se faisait pas dans la Drôme. Ça se faisait en Ardèche. On est d'ailleurs allé en Ardèche avec les élus, on est allé en Ardèche voir des stations, on est allé en Savoie où il y en a une énorme, et les élus ont été conquis aussi, parce qu'ils étaient un peu sceptiques quand même. Ils pensaient que le maire avait peut-être des lubies, voilà, écolo. Et Et donc, on a décidé d'employer ce système. Et depuis, on n'a qu'à s'en féliciter. Parce que, vous voyez, c'est simple. Mais donc, vous en connaissez le système. Ouais. Voilà, les effluents arrivent là. Il y a un premier bac de décantation, un deuxième, ça file là. C'est réparti dans deux bassins. Il y a un géotextile, donc là, le premier bassin est imperméable. Et après, le résidu, c'est filtré par du sable et les racines des roseaux. Et après, ce qui reste de liquide part dans le deuxième bassin, qui lui n'est pas étanche. Et à la sortie, ça va dans le chanson. Et comme là, c'est très filtrant, en fait, il n'y a rien qui passe dans le chanson. On n'a jamais pu... prélever des échantillons. Mais la DDA a été très convaincue, une fois que, à ce moment-là, c'était la DDA. Elle en a installé dans plusieurs communes aux alentours, et puis je vois toutes les petites communes maintenant se rallient beaucoup à ce système, qui est très facile d'entretien. Vous voyez, c'est en face de l'école, on avait un peu peur des odeurs, des moustiques. C'est 100 équivalents habitants. Là, je crois que pour l'instant, on n'a pas les 100 équivalents habitants encore qui sont branchés sur la station. Il faut quand même qu'il y ait assez de monde pour que les roseaux poussent. Alors, s'il n'y a pas assez de monde, il faut arroser. Si au départ, il y a assez d'humidité, nous, en fait, maintenant, on a trop de roseaux, il va falloir en arracher. Voilà.
Il y a aussi la possibilité pour les petites communes qui doivent s'étendre de prévoir un filtre supplémentaire inactif ou la place pour construire ce filtre, tout simplement. Donc, ce qui est bien, c'est que par rapport à un système construit en béton, ce système est évolutif. C'est-à-dire qu'on peut mettre des filtres en plus en premier étage ou des filtres secondaires ou même des noues plantées, c'est-à-dire améliorer l'épuration en aval.
On avait pensé effectivement qu'on pouvait éventuellement agrandir par là si besoin en était. Mais pour l'instant, 100 équivalents habitants, pour une petite commune, c'est déjà beaucoup. En fait, nous, au village, on a quoi ? On a une trentaine d'habitants, plus 5, 6, 7, l'école. Bon, si on a 60 équivalents habitants, c'est le bout du monde, quoi, en ce moment. Sauf que l'été, bien sûr, il y a plus. On doit approcher des 80-100, mais quoi, ça dure un mois et demi. Donc, de toute façon, ça ne nuit pas à une station comme celle-là. Voilà.
Et donc, en termes d'investissement, Madame Gascoin, vous avez des souvenirs de ce que ça a coûté à la commune ?
Alors ça, il faudrait regarder, je ne me rappelle plus. C'est quand même un peu lourd quoi, pour une petite commune.
Vous avez eu une bonne subvention l'agence financière.
On a eu 80% de subvention à ce moment-là. Ah oui. Donc, ça, parce qu'on est commune de montagne, commune rurale, pauvre, enfin bref, on répondait à tous les critères. Mais enfin, c'est quand même une opération qui nous a coûté cher, puis il a quand même fallu faire descendre les effluents de là-haut. Ça ne rentre pas dans le coût de la station, bien sûr.
Bien sûr. Voilà, en vérité, la station n'est... Si on regarde là, on voit que ce n'est que du terrassement, des filtres qui ont été creusés avec une géomembrane, un géotextile. Plantation de roseaux, ça, c'est pas très cher. Alors, qu'est-ce qui est un peu plus cher ? C'est l'emprise du terrain, éventuellement. Mais surtout, comme l'a dit madame ici présente, c'est toute la connexion après au reste.
Ça dépend.
C'est ça le plus coûteux, finalement.
Si le village est groupé, ça va. En plus, nous, c'est un vieux village, là-haut. Enfin, vous connaissez Cubonne. Donc, il a fallu passer dans les petites rues. Il a fallu brancher les maisons. Ça a été un casse-tête épouvantable. En plus... On voulait pas trop nuire quand même au patrimoine, donc. Mais c'est la DDA qui a été maître d'œuvre pour tout et qui a été pour ça qui s'est très très bien débrouillée.
D'accord. Et maintenant, la commune est engagée par rapport au prestataire qui a fait l'installation, par rapport à des organismes de contrôle. Quel engagement la commune peut avoir au niveau de l'extérieur ?
Alors, la commune, pour l'instant, disons qu'il y a le SATES. Vous connaissez le SATES ? C'est l'organisme du département qui vérifie 2-3 fois par an si ça marche bien et qui indique s'il y a un dysfonctionnement. Donc, le SATES vient, bien 2 fois. Et il regarde, justement, il fait des prélèvements. Nous, on ne peut pas faire de prélèvements puisque ça ne sort pas. Mais bon, il regarde quand même si les roseaux poussent bien, si les tuyaux sont propres, si. Voilà. On ne se pose pas vraiment la question de la pérennité du système. En fait, là, je m'aperçois que... Mmh. Oui, là au bord, oui. Il y a un petit souci, les roseaux n'ont pas repoussé. D'habitude, ça repousse jusqu'au bord. Donc je pense qu'il faudrait désherber en fait.
L'intérêt quand même de maintenir les roseaux plutôt que les orties, oui, en surface, c'est que, notamment dans ce premier filtre, c'est que les roseaux permettent à l'eau de mieux pénétrer à travers la croûte de matière organique qui se forme en surface. Oui. Sinon, il pourrait y avoir un colmatage. Oui. Et le mouvement des roseaux avec le vent casse cette croûte et l'eau, oui, peut s'infiltrer le long de la tige des roseaux. Ce qui est moins le cas, bien entendu, pour les autres végétaux qu'on voit là. L'herbe ou les orties, là, tout simplement.
Là. Donc voilà, bah, on voit bien la couche de matière organique unifiée en surface.
En dessous, le gravillon assez fin du 4-6 concassé, silico-calcaire. On voit des petits colamboles là, qui sont là. Des vers de terre.
Oui.
Regardez, là, des vers,
oui,
de fumier,
oui, oui,
qui c'est se développent, oui, dans, oui, la matière organique. Hein. Mm-hmm. C'est le compost de jardin. Regardez là, tout ce qu'il y a. Ça, c'est génial pour les pêcheurs.
Mm-hmm. Oui, parce que du coup, quand on envoie, donc, quand le bassin supérieur là est plein, donc on envoie une sacrée quantité d'eau.
3 cm à peu près.
Du coup, le niveau monte et...
Voilà, quand le flux arrive dans ce premier filtre, il tombe sur ce qu'on appelle un répartiteur, c'est-à-dire une dalle en béton qui casse le flux et qui le répartit bien en périphérie. Donc tous les constructeurs sont attentifs à ce genre de phénomène d'érosion et d'entraînement des particules et on fait de telle sorte que la lame d'eau soit apaisée pour éviter toute érosion.
Cette chanson, elle est pour toi, ô grande sœur, petite reine, grande patronne malgré toi, ô petite main souveraine. La fée qui dit oui à la vie, elle promène dans La Rochelle le fantôme de sa maladie, qu'on sèmera dans les ruelles. Alors en souvenir de toi, là sur le port de La Rochelle, des milliers à tendre les bras, à faire trembler la citadelle. Des milliers à refaire le monde, souffle le vent sur la nacelle. Du lierre est monté sur ta plume, et toi tu joues les immortels. La vie, la la vie, la la vie, la fée, la fée se parle. La vie, la la vie, la la vie, la fée, fait jouer la vie entre ses doigts. La vie, la la vie, la la vie, la fée. Chantera de Lille à Paris, La Rochelle, pour la nounou, pour la mama, la petite fée, la coccinelle. Car nous c'est les copains d'abord, les indiens dans la fourmilière, les douces sorchies sur le bord, grain de folie, grain de poussière. C'est mon hommage de ton vivant, là sur le bord de La Rochelle.
Il n'y a que du roseau, c'est la seule plante...
C'est une roseau. Le roseau est une plante qui a un excellent pouvoir épurateur.
C'est une variété particulière ou pas ?
Non, c'est le même que celui qu'on trouve dans les fossés. Donc voilà, les fossés sont intéressants aussi parce qu'ils permettent l'épuration de l'eau, la filtration de l'eau. Ça va retenir les particules en suspension à travers déjà... toutes les tiges, et puis ça va retenir une partie des nitrates qui arrivent des parcelles voisines. Et ben ici, on utilise le même système. Alors l'intérêt du roseau, c'est ce rhizome qui va aller très en profondeur et qui donc va coloniser l'ensemble de substrat. Et autour de ces rhizomes et de ces racines, on appelle ça la rhizosphère, c'est toute l'activité microbiologique qui va s'installer autour. Donc il y a une complémentarité à la fois entre l'action du roseau et l'ensemble des micro-organismes qui se trouvent dans le substrat. Et ce qui est intéressant, c'est que le substrat participe à 80% à l'épuration et le roseau à 20%. Donc comme je le précisais avant, le roseau aussi, son intérêt, c'est de casser cette croûte de surface en bougeant avec le vent, mais aussi de tempérer la surface du filtre. Ça évite que la lumière ne tombe directement dessus, que d'autres mauvaises herbes s'installent ou que des arbustes s'installent. Là, ce serait dommageable pour le filtre. Ça a un aspect paysager aussi, puisque ça, on ne voit pas la matière organique qui est dessous. Donc ça la masque. Et Françoise signalait tout à l'heure qu'il y avait des oiseaux aussi qui étaient dedans.
D'accord.
Donc je vais mettre les gants, parce qu'on est quand même dans un milieu qui reçoit l'ensemble des matières fécales.
C'est ça.
Mais ceci dit, on n'est pas dégoûté. Hein, on est là, on a les pieds dedans, on pourrait dire. Mais pas jusqu'au cou. Voilà, alors là on a un rhizome. Le rhizome, ce n'est pas une racine, c'est une tige souterraine. D'où vont partir, ici on voit le système racinaire. Et de cette tige souterraine vont naître, on voit à partir de ces petits bourgeons axillaires, des tiges verticales, et qui sont là verdoyantes, et qui s'agitent avec le vent.
Et donc il prend rapidement dans la, on va dire un peu la couche artificielle qu'on lui a octroyée, quoi, composée de.
Le roseau est super content. Il est super content parce que il a pas de concurrent. Il est tout seul. Ah. Il a de l'eau. Il a de la lumière. On met les filtres plantés se mettent dans des zones qui ne sont pas ombragées. Et surtout, il a des nutriments. Il a plein à bouffer. Donc il va croître très vite. La première année d'installation, on va mettre des pieds qui sont tout petits. Ça va paraître assez dénudé. Dès la fin de la première année, au bout le cycle d'un an, pratiquement toute la surface sera couverte. Donc c'est fantastique et il faut savoir patienter effectivement la première année parce que bon, chez un particulier par exemple, la première année, on va avoir quand même quelques matières qui vont reposer tout autour de l'arrivée des effluents. Dans ce cas-là, soit la phyto elle est un petit peu éloignée de la maison, ça ne gêne pas, soit elle est un peu plus proche et on peut mettre un brise-vue, mais qu'on enlèvera dès la première année, puisqu'ensuite tout sera invisible. Donc ce rhizome que je viens d'enlever, je vais le planter ailleurs. Pour permettre la colonisation. Donc on voit quand même que le substrat est un peu sec ici et que l'employé communal ferait bien d'égaliser un petit peu le substrat pour permettre à l'eau de venir jusque là, créer peut-être un canal préférentiel pour que ça puisse alimenter le roseau et qu'il puisse se développer.
Et là, est-ce que c'est bougé là?
Donc on a les pieds dans le filtre là et on n'aurait pas les pieds dans une fosse septique. Hein. Ici, on peut se balader. Regardez, on est combien? On est 5 là à se balader. On est un peu comme dans notre bac à sable dans le square.
C'est ça.
Et on voit qu'il y a une cloison intermédiaire ici dans ce premier filtre, tout simplement parce que, comme ça a été signalé juste avant, il y a une alternance d'un filtre à l'autre. Pourquoi cette alternance? C'est celle-là qui permet effectivement qu'il n'y ait pas d'odeur. C'est-à-dire que un filtre va être alimenté pendant une semaine. Et l'autre filtre, pendant ce temps-là, va s'assécher. Et pendant cette phase, la matière organique va pouvoir se minéraliser. Le compost se réaliser en milieu aérobie, c'est-à-dire en milieu riche en oxygène. C'est exactement la même chose que les bacs à compost qu'on a pour les toilettes sèches, par exemple. Parce qu'on essaye aussi de faire la promotion des toilettes sèches. L'intérêt de promouvoir les toilettes sèches, c'est d'éviter d'utiliser tout un système de chasse d'eau, d'alimentation en eau, d'eau potable en plus, voilà, qui sert uniquement de moyen de transport des matières fécales. Donc ici, exactement comme pour les toilettes sèches, il y a une humification qui se fait en milieu oxygéné avec un mélange à la fois d'azote, matière organique, mais aussi de cellulose, le PQ et autres. Et ça permet donc d'avoir quelque chose qui n'a pas d'odeur. Et dans les toilettes sèches, pour éviter cette odeur, on apporte des copeaux de bois. Et c'est ce carbone ajouté à l'azote de la matière organique qui fait qu'on a un bon rapport qu'on appelle C sur N, carbone sur azote, qui fait que la minéralisation et l'humification se font dans de très bonnes conditions et que donc il n'y a pas d'odeur. Donc là, on a une couche qui va de 50 à 70 cm de granulat. On a d'abord les gravillons dans lesquels se développent les rhizomes des roseaux, qui assurent aussi ce phénomène en surface de papier filtre, comme pour le café, tout simplement. Mais d'ailleurs, ça ressemble à du marc de café en surface. Et puis au fond, on va avoir du galet lavé, roulé 20-40. Ça veut dire 20 à 40 mm, qui assure le drainage du fond des filtres et qui permet ensuite à l'ensemble des effluents d'être recueillis, d'être repris par un drain en aval du filtre, drain qui est disposé dans le filtre. Et ces eaux vont être collectées pour aller ensuite dans le filtre secondaire. Et chez le particulier, c'est pareil, il y aura de 40 à 60 cm de granulat selon le type de filtre. Donc les roseaux vont, on dit le terme scientifique, ils vont transpirer. Donc ils vont utiliser une partie de l'eau pour faire monter les sels minéraux dans leurs feuilles, permettre aussi la photosynthèse, etc. Et donc la croissance, la création de cellulose et tout ça. Et puis le reste de l'eau qui percole à travers les filtres est repris par les drains et va dans la deuxième série de filtres qui donne la filtration secondaire, notamment pour éliminer les nitrates et pour améliorer aussi l'épuration, pour parfaire l'épuration, on pourrait dire. Les filtres sont protégés eux-mêmes du ruissellement pouvant venir de la périphérie, mais également le réseau et séparatif ne viennent ici que les eaux usées, ce qui permet d'ailleurs de limiter le dimensionnement de l'ensemble des filtres, et je rappelle que c'est le total des deux filtres font 2 mètres carrés par équivalent habitant. Donc ici il y a 100 équivalents habitants, donc on a 200 mètres carrés de filtres. Alors on se rend compte que la surface dédiée à la station est quand même plus grande, puisqu'il faut pouvoir tourner autour, qu'on a les talus qui maintiennent les filtres, qu'au-dessus on a le système de dégrillage, etc.
Pour accéder avec une mini-pelle.
Voilà. Et puis que ça permet aussi, petit à petit, à la commune de stocker quelques matériaux, comme on voit ici, les panneaux pour les dernières élections. Donc là, les eaux, comme on constate, elles arrivent très claires. Vous avez vu les eaux en amont dans le bassin où il y avait la chasse à Auger. Eh bien, on voit ici que les eaux sont parfaitement claires. Donc, les matières, les particules ont été toutes retenues. Ben voilà, on va rentrer dans la jungle. Là, le filtre secondaire, il est magnifique.
Il est unique.
Les roseaux font 2 mètres de haut. Ils sont d'un très joli vert. Quelques-uns sont un peu jaunissants, parce que peut-être qu'effectivement, la station est un peu trop grande pour la quantité d'effluents, mais c'est bien vu également parce que voilà, si la commune a besoin de s'agrandir, il y aura la capacité suffisante. Et puis je vais rentrer dans cette jungle pour vous montrer. Regardez, tous ces escargots magnifiques qui vivent sur ce milieu. C'est quand même sympa de penser que nos effluents donnent la vie. Ici, ils donnent la vie. Si on creusait, bien sûr, on retrouverait à nouveau tous les lombrics.
Ça, ils sont venus naturellement. On n'est pas obligé de les ramener de l'extérieur.
Non. Et puis, donc, à notre pied, il y a une canalisation qui fait toute la longueur du filtre.
De part en part.
De part en part, avec très régulièrement des taies qui sont masquées là par la matière organique. Matière organique, non pas fécale, mais tout simplement les déchets des végétaux. Et ça répartit donc alternativement à droite et à gauche cet effluent. Cet effluent va migrer à nouveau dans le substrat fait de gravillons, à travers les racines, les roseaux et tout ce qu'on appelle la rhizosphère.
Même système que pour le filtre primaire ?
Exactement. Et ensuite, la particularité de ce filtre ici, c'est qu'il n'a pas de fond. Donc cette eau part directement pour réalimenter la nappe.
Donc là, ça fait combien de temps qu'elle est en place, cette station ?
Bientôt 10 ans.
10 ans, ouais. 2004.
Un fil, hein ?
2004.
Mais quand le hameau a été créé.
Oui, exactement.
D'accord, et les seuls frais courants, c'est le personnel technique qui vient de temps en temps s'occuper De l'éclaircissement, du nettoyage.
L'agent communal.
Plus de renseignements au 06 77 19 36 69.
Le top. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.